Merci. Bonjour à tous. Je me réjouis de partager avec vous ce matin ce message intitulé « Protéger mon jardin ». Hier, j'ai passé une bonne partie de ma journée à mettre de l'ordre dans notre jardin à la maison et j'ai pensé à ce message que j'allais vous apporter ce matin. Et justement, en travaillant dans notre jardin à la maison, j'ai réalisé que ça prend pas mal de travail à s'occuper d'un jardin. Que ça demande un travail quand même assez constant pour que le jardin reste un jardin et que ce soit un endroit où il fait bon être. Et il faut mettre de l'ordre dans le jardin. Et justement, j'aimerais vous parler ce matin d'un passage biblique qui peut nous donner des leçons précieuses sur comment mettre de l'ordre dans le jardin de nos vies. C'est un passage bien connu. Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Ce passage bien connu est très riche. On pourrait l'aborder sous différents angles. Ce matin, je vous invite à prendre ce passage comme une trame de lecture pour les situations dans nos vies où nous sommes confrontés à la tentation. Nous avons tous des moments où nous regrettons comment nous avons agi. Nous avons tous des moments où notre conscience nous accuse et nous dit « tu as péché ». Et des fois, ces moments se répètent et il y a des schémas dans nos vies où, de manière répétée, nous tombons toujours dans les mêmes domaines. Ce récit de la chute nous donne juste pas seulement une information de ce qui s'est passé à l'époque, ça nous donne aussi des clés pour les chutes personnelles que nous vivons, que nous avons vécu et que nous vivons. Ce passage nous décrit une dynamique de ce qui se passe et ce qui précède la chute. Ce récit se passe dans le jardin. Là, alors, probablement, il était différent de ce jardin japonais, qui est très joli. Mais voilà, c'est une culture un peu différente. Mais la différence entre un jardin et un paysage sauvage, c'est justement que quelqu'un s'en occupe. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Il y a du travail. Il y a du travail à faire. Le jardin ne va pas rester un jardin si personne ne s'en occupe. Je vous propose de prendre ce jardin comme image pour le jardin de notre vie. Pour le domaine ou le territoire qui nous est confié. J'ai réfléchi à ce que pourrait représenter le jardin pour moi. En premier lieu, c'est ma vie, mes paroles, mes actions, comment je me comporte. En deuxième lieu, je suis père de famille. Et j'ai une responsabilité envers ma famille, j'ai une responsabilité envers mes enfants de les protéger et les garder. Ma famille fait partie du jardin que Dieu m'a confié. Et puis, comme vous l'avez entendu, je suis co-directeur de Campus pour Christ en Suisse romande, ce qui me donne une responsabilité pour une équipe de personnes qui sont au service de Dieu. Cette équipe aussi, elle fait partie de mon jardin, de ma zone de responsabilité. Je vous propose de prendre un petit moment pour réfléchir à quel est votre jardin. Nous avons tous des domaines qui nous sont confiés et pour lesquels nous sommes responsables. Voilà. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait deux personnes qui avaient reçu le mandat de s'occuper de ce jardin. Un jardin, normalement, a un propriétaire. Ils n'en étaient pas propriétaires. Ils étaient les gérants ou les intendants du jardin. Le propriétaire est Dieu. Et il en est de même avec nos vies. Nous ne sommes pas les propriétaires de nos vies. C'est notre Créateur qui est notre propriétaire, mais il nous a confié nos vies. Et dans nos vies, il nous a confié une zone d'influence et une zone de responsabilité. Et dans cette zone de responsabilité, il nous a également donné une autorité. Avec la responsabilité va l'autorité. Dieu les bénit et leur dit « Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Le mot « dominer » ici ne fait pas référence à quelque chose d'oppressant, mais simplement à l'autorité de pouvoir accomplir le mandat que Dieu avait donné, de prendre soin de cette terre, de prendre soin du jardin, dans lequel il avait placé Adam et Ève, et ce jardin était appelé à grandir au fur et à mesure qu'ils investissaient du travail dans ce beau jardin. En plus d'Adam et Ève, il y a un troisième acteur qui apparaît dans ces quelques versets. C'est le serpent. Il paraît que, déjà à l'époque, le serpent symbolisait la sagesse occulte, la magie. Et ici, effectivement, le serpent, il représente le diable. Il représente Satan, le diviseur, le tentateur. Il n'est pas dit que... il n'est nulle part dit dans la Bible que le serpent était le diable. Mais le diable, il parle au travers du serpent. Et ce serpent, donc, s'approche d'Adam et d'Ève. Il est dit dans l'Apocalypse, il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Il est intéressant de remarquer que justement, le diable n'apparaît pas sous forme d'un dragon, de quelque chose d'impressionnant, d'intimidant, où Adam et Ève pourraient dire après, on n'a pas pu résister. Le diable apparaît en tant que créature, et c'est ce qu'il est. Il est une créature de Dieu à la base. Et il apparaît aussi sous forme d'un animal. Il agit au travers d'un animal. Relisons juste le verset précédent. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Le serpent est-il un animal qui se déplace sur la terre? Oui. Sous-entendu, le serpent était sous l'autorité d'Adam et d'Ève. Cette notion-là est clé. Le serpent était sous l'autorité d'Adam et Ève. Et si nous parlons du diable, du tentateur et de son œuvre dans nos vies et dans le monde, nous devons prendre conscience du fait qu'il agit parce qu'on lui laisse la place. Il n'est justement pas ce grand dragon irrésistible. Il a une influence parce que quelqu'un lui a accordé cette influence. Adam et Ève lui ont accordé le droit de parole, lui ont accordé une influence. Et plusieurs commentateurs relèvent le fait qu'il y a comme un inversement des rôles qui se produit dans ce passage. C'est Adam et Ève qui sont les gérants du jardin. C'est eux qui ont l'autorité. Et c'est le serpent qui devrait les suivre et obéir à leurs paroles. Et c'est l'inverse qui se produit. C'est Adam et Ève qui vont manger du fruit interdit en suivant le conseil du serpent. Ils ont donné de l'influence au serpent. Et nous, en tant qu'humanité globalement, nous avons donné de l'influence au diable sur la terre, au point que Satan est devenu, qu'on peut l'appeler, le prince de ce monde. Mais cette influence ne lui a pas été donnée par Dieu. Cette influence lui a été donnée par nous. Et il en est de même dans nos vies personnelles. Lorsque nous sommes confrontés à des tentations ou à des attaques, le diable a autant de place que nous lui donnons. Et justement, c'est là que se situe l'enjeu. Regardons Adam. Adam apparaît juste une fois dans ce passage. Dans le dernier verset, où il est dit « Elle en donna aussi à son mari qui était là avec elle. » C'est tout. On peut dire Adam, le grand silence, dans toute cette histoire. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Mais l'apôtre Paul nous donne un éclairage dans ce passage de 1 Timothée. Et Adam n'a pas été trompé. Alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Ça ne veut pas dire que Adam ne s'est pas rendu coupable d'une transgression. Bien sûr, il en a mangé aussi. Mais en plus de la transgression de manger du fruit interdit, il l'a fait en étant conscient que c'était faux. Ève, elle croyait bien faire, tandis que Adam savait qu'il faisait faux, et il en a quand même mangé. Le silence d'Adam. Ce silence se situe à trois niveaux. Au niveau de sa relation avec Dieu, il était placé dans ce jardin en tant que représentant et ambassadeur de Dieu. Et il avait accès à Dieu à tout moment. Et c'est la même chose pour nous. Nous ne voyons pas Adam s'adresser à Dieu en disant « Aide-moi à gérer cette situation. Montre-moi comment aborder ce serpent qui défie ton autorité. » Entre Adam et Dieu, silence. Silence entre Adam et Ève. Adam est là et il écoute la conversation entre le serpent et sa chère épouse, qui de plus en plus se laisse convaincre par les arguments rusés du serpent. Et il ne dit rien. Il est conscient que c'est faux et il ne dit pas à Ève, écoute, il me semble que tu es en train de te laisser persuader par quelque chose qui est en contradiction flagrante avec ce que Dieu nous a dit. On ne l'entend pas dire, je ne suis pas d'accord. Silence aussi entre Adam et le serpent. Nous venons de voir que Adam et Ève avaient reçu autorité sur tous les animaux dans le jardin. Donc Adam avait parfaitement le droit de dire au serpent, tu te tais maintenant. Silence. Adam est là et il subit toute la situation. Il subit l'action du serpent. Combien de fois subissons-nous des choses dans nos vies? Et souvent, on croit qu'on ne peut rien y faire. Alors que Dieu nous a équipés avec une autorité sur nos vies. Nous sommes appelés à, comme le dit l'apôtre Paul, régner dans la vie avec Christ. Nous ne sommes pas appelés à rester passifs ni à rester silencieux. Et combien de fois cédons-nous à la tentation parce que nous sommes restés passifs trop longtemps? Nous avons laissé venir les choses, nous avons écouté les faux arguments qui vont contre la vérité de Dieu. Et en fin de compte, on cède et on tombe. Ève, elle a été trompée par le mensonge du serpent. Jésus dira plus tard, Satan est un menteur. Il est un menteur de nature. Lorsque nous sommes tentés, il y a presque systématiquement la dimension du mensonge. Nous croyons quelque chose qui est faux. Le serpent prononce des mensonges à trois niveaux. Premièrement, des mensonges au sujet de Dieu. Ce qu'il dit à Ève, et Adam qui est là aussi, remet en doute la bonté de Dieu à leur égard. L'ennemi cherche à discréditer Dieu, à nous faire douter du fait que notre Dieu désire le meilleur pour ses enfants, à nous faire croire que Dieu est un grand tyran qui veut juste diriger les choses comme il veut et qu'il ne tient pas compte des besoins de ses enfants. Des mensonges aussi au sujet de nous-mêmes ou au sujet d'Adam et Ève. Il leur suggère qu'il leur manque quelque chose. Que cet arbre-là, que le fruit de l'arbre interdit va leur apporter quelque chose qui leur manquait jusqu'à présent. Il est intéressant que ce par quoi ils cherchent à attirer leur intérêt, c'est quelque chose que Dieu voulait de toute façon pour eux. Explication. Le serpent leur promet qu'ils vont devenir comme Dieu. Il parle à qui là? Il parle à la seule créature qui est créé à l'image de Dieu. Il n'y a pas de manière plus claire à dire que Dieu il veut que Adam et Ève lui ressemblent. Simplement, le diable propose un raccourci. Et il dit, il suffit de manger ce fruit et c'est fait. En fait, ressembler à Dieu, ce n'est pas si facile. Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu et ils étaient appelés à grandir en Dieu, à grandir dans la compréhension, à grandir dans la sainteté, à grandir comme nos enfants naissent à notre image et puis ils grandissent, ils apprennent. Et il n'y a pas de raccourci pour la croissance en mangeant simplement une pomme. C'est exactement la même approche que le diable utilisera plus tard avec Jésus. En lui disant, adore-moi et je te donnerai toutes les nations de la terre. Il parle à qui ? Il parle à celui que Dieu a désigné roi de toute la terre. De nouveau, le diable propose un raccourci. Il nous propose de parvenir à quelque chose que Dieu a prévu pour nous en utilisant une manière qui est fausse, qui est interdite par Dieu. Et pour nous faire avancer dans cette direction-là, il met aussi en doute notre identité. Justement, il met en doute Adam et Ève, il dit « il vous manque quelque chose ». Comme il dira plus tard à Jésus, « si tu es vraiment le Fils de Dieu ». Donc, le serpent est un menteur. Et nous tombons, nous péchons, parce que nous écoutons ses mensonges. Regardons comment Jésus a géré la tentation. Comme le serpent est apparu dans le jardin à Adam et Ève, le diable est apparu face à Jésus. Et le diable apparaîtra, je vous promets, dans le jardin de votre vie. Simplement de manière pas aussi flagrante et visible. Il n'y a normalement pas un serpent visible qui vient contre nous. Nous ne savons souvent pas que c'est le diable qui vient vers nous. Mais il va se pointer. Et comme pour Adam et Ève, ils cherchent à amener Jésus à la transgression. Ils cherchent à le convaincre de mensonge et il cherche à ce que Jésus se mette à le suivre lui plutôt que rester dans la position d'autorité que Dieu lui a donnée. Jésus, lui, n'a jamais péché. Il n'a jamais abdiqué son autorité face à l'ennemi. Au mensonge de l'ennemi, il répond par la vérité de Dieu et en fin de compte, il le confronte avec l'autorité qu'il a et il dit « Retire-toi, Satan, va-t'en. » Alors le diable le laissa. Plus tard, l'apôtre Jacques dira « Résistez au diable et il fuira de vous. » C'est valable pour nous. J'ai dit avant combien de fois nous laissons-nous entraîner dans le péché en restant passifs face à l'ennemi. Il se pointe dans notre jardin. et nous avons le droit et la responsabilité de lui dire que c'est, dans notre vie, ce n'est pas lui le chef, c'est nous qui sommes le chef. Jésus dira à ses disciples, « Je vous ai donné autorité pour marcher sur des serpents et des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Lorsque nous recevons Jésus, il rétablit notre position d'autorité face à l'ennemi. Là où nous avons cédé l'autorité dans notre vie, où nous avons suivi l'ennemi, Jésus nous replace dans cette situation d'autorité. Et cette autorité, nous pouvons apprendre à l'exercer. Et comme Jésus le fait, de manière claire, dire à l'ennemi quel est le tarif dans notre vie. Je vais vous donner trois exemples. Je vous ai parlé du jardin de ma vie. Il y a d'abord ma vie personnelle. Je me souviens d'une situation où avec ma femme, on s'est disputé. Et ça tournait vraiment au vinaigre. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, maintenant, on prie. Et on était justement en train d'apprendre à exercer cette autorité. Et dans la prière, nous avons dit, maintenant, au nom de Jésus, nous interdisons le silence. Nous ordonnons le silence à l'ennemi. Et tout à coup, notre dispute était partie. Au point qu'on se demandait, mais en fait, on parlait déjà de quoi ? Quel était le problème ? Je ne mets pas tous nos disputes sur le dos de l'ennemi. Néanmoins, il est présent, des fois, dans de telles situations. Je vous donne un autre exemple du jardin de ma vie par rapport à ma famille. Pendant tout un temps, notre deuxième fils faisait régulièrement des cauchemars. Et puis il pleurait la nuit, et puis j'allais vers lui, des fois plusieurs fois par nuit. Et puis chaque fois qu'il avait ses cauchemars, après il était inconsolable, comme bloqué dans son cauchemar. Et en plus, quand je me mettais à prier avec lui, ça s'empirait. Et il pleurait plus fortement encore. Et ça, c'est intéressant. Quand vous vous mettez à prier et si les choses s'aggravent, c'est un signe qu'il y a quelqu'un qui travaille contre vous. Et donc, j'ai changé de stratégie. En allant vers mon fils, déjà, en l'entendant pleurer, en montant l'escalier vers sa chambre, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, maintenant, au nom de Jésus, je lis cette toute influence de l'ennemi sur mon fils. Et les choses ont changé. Je pouvais aller vers lui, le prendre dans mes bras, le consoler, le recoucher et se rendormir. Troisième exemple. L'équipe de Campus pour Christ qui m'est confiée. Je n'en suis pas le propriétaire, mais j'en suis intendant. Et je dois veiller à ce qui se passe dans notre équipe. Il y a quelque temps, ensemble avec mon collègue co-directeur, nous sommes arrivés à la conclusion de nous séparer de l'un de nos collaborateurs. Une personne que j'aime, une personne en qui je me suis investi, mais une personne au travers de laquelle est entrée une dynamique dans notre équipe que nous ne pouvions pas laisser. Et après plusieurs démarches de prière, de discussion, ce n'est pas la personne qui n'est pas la bienvenue dans l'équipe, mais c'est certaines paroles et certaines attitudes. Adam et Ève avaient le droit de dire au serpent, soit tu la fermes maintenant, soit tu sors de mon jardin. Et il y a des fois, dans nos vies, dans notre zone d'influence, il y a besoin de dire à quelque chose ou quelqu'un, maintenant, il n'y a plus de place pour toi là-dedans. Et c'est des décisions qui demandent du courage. Mais c'est des décisions que Dieu nous appelle à faire parce que justement, il nous a donné une autorité dans le jardin de notre vie. Et nous ne pouvons pas laisser des choses se développer et prendre une ampleur finalement qui cause la destruction. Adam et Ève ont discuté trop longtemps. Ils ont agi trop tard, voire pas du tout. Nous sommes appelés à exercer l'autorité de Dieu en tant que ses ambassadeurs dans notre zone d'influence. Et des fois, ça coûte. Des fois, c'est dur. Mais c'est ça qui empêche le jardin de devenir un terrain sauvage. Résumons. Dans la chute, il y a ces quatre éléments. La transgression, l'action du diable, le mensonge et l'image de Dieu qui a été ternie. Adam et Ève voulaient ressembler davantage à Dieu, le résultat c'est qu'ils lui ressemblaient moins. Il a été mentionné que je suis là aussi pour vous faire goûter un tout petit peu au cours Vivre Libéré. Dans les cours Vivre Libéré, nous enseignons une démarche de prière. Une démarche de prière que nous appelons les 4 R. Et c'est une démarche de prière qui nous aide justement à mettre de l'ordre dans le jardin de notre vie. Et ces 4 R reprennent ces 4 éléments. Il y a une transgression qui a eu lieu, cette transgression doit être reconnue, avouée, confessée. Et là, nous avons péché, nous demandons pardon à Dieu. Souvent, justement, dans nos chutes, il y a aussi la présence du tentateur. Et comme je viens de vous le décrire, nous avons le droit, le privilège et la responsabilité de lui dire stop. Et ça, c'est le fait de résister au diable. Il y a aussi la dimension du mensonge. Si nous continuons à croire les mêmes mensonges, nous allons continuer à commettre les mêmes péchés. Et donc, nous devons remplacer le mensonge par la vérité. Des fois, dans des situations qui me causent des problèmes et où je suis malheureux avec mon propre comportement, et je pense que ça peut nous arriver à tous, quand on dit « je n'aime pas comme je suis dans cette situation », je prie « Seigneur, montre-moi quel est le mensonge que je suis en train de croire. » Et puis finalement, recevoir. L'image de Dieu a été ternie par la chute et le péché. La bonne nouvelle, c'est que nous recevons le pardon de Dieu et nous recevons aussi, en devenant chrétien, nous recevons le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Le Saint-Esprit étant l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté qui nous habite et qui nous redonne le privilège d'être ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Je vous donne une minute de silence et après je prie et après j'ai fini.